De retour sur la table de La Fabrique, en live avec vous jusqu'à 22h. Nous avons un nouvel invité autour de la table. C'est un véritable moulin et ça fait bien plaisir, la table, hein, pas l'invité. Il s'agit de Projet 27 qui est avec nous.
Presque.
C'est Guillaume. Près.
C'était pas loin.
C'est Guillaume qui est invité.
Ah, c'est Guillaume pour son projet 27.
Voilà.
C'est ça ?
Non, c'est 17.
Oh, 17.
17.
Projet 17.
Attends, alors. On va y arriver. Bonsoir et bienvenue sur La Fabrique. Ça me fait très plaisir d'être.
Parce que c'est les 20 ans du festival.
Voilà,
27,
alors, mais c'est vrai
17.
Qu'on pourrait aller au 27, mais dans 10 ans, quoi.
On va y aller. Alors, bonsoir Guillaume.
Donc, mais bonsoir.
On te connaît sous différents noms. Tu es, d'ailleurs, ça a été très joliment dit dans le programme, tu es la figure de proue de Capitaine, etc. Mais ce soir, tu es venu dans le cadre du projet 17 avec ton acolyte Mickaël Borcard, cet homme orchestre
exact.
Dont on aura l'occasion de parler. C'est un beau projet que tu nous présentes là, puisque c'est un projet qui a été établi à l'occasion du 150e anniversaire de la mort de Charles Baudelaire.
Exact.
Si je ne me trompe pas, si je lis bien mon programme.
C'est juste.
Déjà, pourquoi le choix de Baudelaire, au-delà de cet anniversaire de la mort mais...
Alors, l'anniversaire, c'était un peu une date prétexte. Hein, pourquoi Baudelaire ? Baudelaire, ça a été, moi, ma rencontre avec la poésie quand j'avais 15 ans. Quoi, et... Enfin, voilà, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait waouh, bordel, ce qu'on peut faire avec des mots. Et que je me suis mis aussi à écrire. Et à côté de ça, ça a été un peu une volonté à ce moment-là de réussir à lier deux amours qui sont la musique et la littérature qui souvent se côtoient sans jamais forcément se rencontrer, ou assez rarement du moins. Et il y avait encore une troisième volonté qui était une volonté de transmission. C'est-à-dire que quand on dit Baudelaire, tout le monde fait bah oui, bien évidemment. Et quand on dit vas-y, dis-moi un poème, à part l'Albatros, et là c'est. Il a fait autre chose que l'Albatros, Baudelaire. Mais... Donc voilà, le but c'était un petit peu de faire entendre une certaine actualité, une certaine modernité en fait dans des textes qui sont vieux de plus de 150 ans, et d'aller justement un peu dans cette démarche de faire découvrir aux gens quelque chose qu'ils croient connaître.
Et justement, comme tu parles de l'actualité, de remettre au goût du jour, à ton avis, qu'est-ce qui dans les textes de Baudelaire résonne encore actuellement aujourd'hui? Voilà. Quel lien est-ce que tu
ferais ? Énormément de choses. Alors c'est vrai que dans les textes qu'on a choisis, volontairement, il n'y avait pas forcément le spleen, où il y avait pas. Enfin, je voulais essayer d'éviter un petit peu cette connotation trop connotée en fait. Mais dans finalement la notion de l'espoir, le travail sur la création, la notion du temps qui passe, on fait que répéter les mêmes thèmes encore et encore. Et c'est pour moi la modernité, elle est d'un côté dans la langue. Même s'il y a certains mots qui ne sont plus du tout utilisés, hein, mais il y a une modernité dans le sens, il y a une puissance dans la langue, dans le phrasé. Puis, aujourd'hui, il y a, la poésie, on la retrouve dans le slam, dans le rap, certains disent dans la trappe, je ne suis pas d'accord, mais on va le retrouver. En tout cas, on retrouve l'utilisation et la puissance du mot, et la puissance du verbe, mais dans une démarche beaucoup plus dans le rythme. Moi, j'avais envie de faire entendre autre chose que du rythme, mais plutôt de comment un mot résonne, comment une phrase résonne. Après, précisément, qu'est-ce qui est moderne aujourd'hui dans ces textes-là ? Je suis un peu trop fatigué pour être plus précis, si je suis navré.
Et tu parles justement de comment les mots résonnent, comment de cette poésie dans le langage. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre actuellement cette langue qui se déforme? Alors on dit que le français est une langue vivante et que de toute façon elle est amenée à se déformer, mais quand on entend les jeunes qui disent c'est qu'est-ce que j'ai dit, etc.
Bah, tu sais, s'ils croient que c'est juste, c'est pas grave, hein. Faut en croire. Non, ça me fait deux émotions très différentes, parce que d'un côté, par l'amour de la belle langue, ça m'écorche les yeux de lire un langage MS, ou ça m'arrache les oreilles d'entendre des animals. D'un autre côté, d'un point de vue de linguiste, en fait, je trouve complètement cohérent que la langue bouge, et au moment où le but de la langue, c'est de communiquer, si la communication passe, c'est du français, et donc ça ne me pose pas de problème. Donc je vis assez mal cette schizophrénie, mais en fait, j'ai appris à complètement... En fait, je me suis étonné moi-même de ma tolérance pour la faute de français. Il y en a peut-être deux que je supporte encore très mal. C'est le au jour d'aujourd'hui et le à quelque part. Mais ça, c'est bêtement.
Mais en tout cas, ça va aussi dans l'idée toujours linguiste que la langue, enfin la différence entre une langue morte et une langue vivante, c'est qu'elle est amenée à évoluer, et puis que peut-être que plus tard ils croiront tous la même chose.
Malheureusement. Mais alors effectivement, il y a ce truc aussi où et c'est peut-être pour ça en fait que j'ai envie d'utiliser encore des mots vieillots. En fait, si les mots sont vieillots, c'est juste qu'on les utilise plus. Et ma peur dans ce qu'on appelle la perte du français, c'est plus la perte du vocabulaire que de la syntaxe ou de la grammaire. Parce que derrière un mot, il y a une idée, il y a un concept, et effectivement, moins on a de mots, moins on a de capacité de créer des idées complexes. Donc à ce niveau-là, oui, pour moi c'est important de continuer à utiliser des mots, d'être précis en fait, et d'avoir du vocabulaire. Maintenant, je suis un peu moins chiant sur la syntaxe.
Ça me fait penser aux Esquimaux qui ont 25 termes pour parler de la neige.
C'est ça, on a
dans la même idée.
Oui, exactement. On a ce qu'il nous faut pour ce qu'on a envie d'utiliser et ce qu'on a envie de dire.
Cette langue, aujourd'hui, tu l'as mise en musique. Tu as enfin fait ce lien entre la langue française, enfin, ce que tu disais, la littérature et puis la musique. D'ailleurs, on le voit très bien sur la pochette de ton futur album qui sortira en mai, c'est
exact.
Ça ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette pochette ?
C'est une idée très bête et très simple, en fait. L'image du poète, c'est la plume. C'est presque une image d'Épinal, quoi.
Parce que pour préciser un petit peu sur l'image, on voit donc une plume, et le bout de la plume, c'est une prise jack,
exact,
bien connue des musiciens et voilà, tout ce qui tourne autour de la musique.
Bah, c'était un petit peu ça. Enfin, finalement, la pochette se raconte d'elle-même. C'est comment tu plugues la littérature dans un ampli, quoi. Voilà.
Et projet fait maison, hein, tu m'as dit.
Projet fait maison, précédemment. Michael qui a bricolé la musique, qui a aussi bricolé cette plume. C'est quelqu'un qui a de multiples talents.
Parlons-en de Michael Borkar qui t'accompagne justement sur scène. C'est un véritable homme orchestre. Il joue de tout à lui tout seul. Comment s'est fait la rencontre avec lui ?
Par une amie, en fait, qui est une des meilleures amies, qui est d'ailleurs sa copine maintenant depuis plusieurs années. On s'est rencontrés à travers elle. On a créé une amitié humaine et une amitié musicale. Il a son projet Penfield qui tourne depuis pas mal de temps. Il m'a invité plusieurs fois à venir faire des voix pour Penfield. Moi, je l'ai proposé. Il a composé un morceau pour Capitaine, etc. À côté de ça, dans une pièce de théâtre, il était venu faire les costumes. Et ensuite, il a décoré le piano de Voyage extraordinaire. Enfin, voilà, il y a eu. Et en fait, on a une aventure de collaboration qui s'est créée, et une confiance en la création sur à chaque fois des petits projets ou des plus gros projets. Et en fait, il y a un moment où moi j'étais parti en bateau. Lui, et à mon retour, j'avais un grand besoin de créer. L'idée de faire du Baudelaire en électro, c'est une idée qui est née sur le bateau d'ailleurs avec Jérémy Decroux. Alors qu'on avait picolé une bonne bouteille de rhum à nous tout seuls. Et en rentrant, voilà, Michael me disait qu'il avait envie de faire un projet solo. Puis je lui ai dit, mais attends, on fait un truc à deux, en fait. Faisons quelque chose où on se marre, où on explore et où on se met en danger. Parce que tant pour moi que pour lui, c'est une grosse, grosse prise de risque, ce projet, en fait.
Et du coup, comment est-ce que vous avez travaillé le choix de la musicalité qui accompagne les textes ? Comment ça s'est fait ? Comment choisir, on va mettre tel son, tel rythme sur ce texte ? Ça a dû être un gros travail.
Ça a été un gros travail. En fait, on s'est organisé une semaine de résidence. On s'est dit, voilà, on part une semaine les deux, en l'occurrence à Morgin. On savait que personne pour nous emmerder. On allait faire chier à personne non plus avec le son, parce que c'était hors saison, donc voilà, les apparts étaient vides. Et on s'est dit, moi j'avais, avant de cette résidence, rebouquiné à peu près tout Baudelaire, enfin, en tout cas tout ce qui était poétique. Et j'ai eu quelques essais aussi, j'ai très vite laissé tomber ces traités sur l'art parce que c'était trop lourd. J'avais fait une sélection d'à peu près une quarantaine de poèmes, donc je suis arrivé vraiment avec cela en me disant, voilà, ça c'est potentiellement ceux que je peux avoir envie d'utiliser, en sachant pas du tout si un poème allait durer 20 secondes ou 10 minutes. Quoi. Et on était parti vraiment dans l'idée de se dire, si en une semaine, on vient pour explorer, pour essayer, donc si en une semaine on a réussi à faire un morceau qui tient la route et on est content, c'est cool. Et lui, il avait pris un peu tout son barda, ses instruments, justement, il fait le saxophone qui passe dans des pédales, il avait son looper qui était un peu son nouveau joujou, en mode allez, je vais apprendre à l'utiliser. On est venu un peu avec plein de matos en sachant pas qu'est-ce qu'on allait prendre ou pas.
Qu'on allait prendre.
Merci, exactement. On sachant pas ce qu'on allait utiliser.
T'as bien raison.
Et au final, ça s'est créé. On était l'un à côté de l'autre. Moi, j'essayais des lectures. Lui, dans un coup, il lançait une boucle, il trouvait quelque chose, il cherchait. Puis à un moment, on se disait, tiens, ça marche bien. Et à ce moment-là, c'est moi qui faisais le choix du texte en disant, ouais, moi, j'ai envie de raconter ça sur cette musique-là. Et donc, on faisait un peu la composition ensemble, mais c'est vraiment lui qui faisait l'immense majorité du travail de composition. Moi, je faisais plus de l'arrangement, peut-être, en disant voilà, non, là, il faut plus de ça, plus vite, moins. Enfin, je faisais un peu la dramaturgie des poèmes, en fait, en musique. Et en fait, à la fin de la semaine, on s'est rendu compte qu'on avait potentiellement une performance d'une heure à travailler, à peaufiner, mais qu'on avait en fait créé presque une dizaine de pièces. Et voilà.
On te connaît surtout comme le chanteur de Capitaine, etc. Quelle différence est-ce que ça fait ? Parce qu'ici, on ne peut pas tellement dire que tu chantes. Tu es plus dans la récitation, tu es plus dans la lecture. Est-ce que ça a été difficile pour toi de passer du chant à la lecture, ou est-ce que finalement ça a été quelque chose d'assez naturel ?
Ça a été ultra difficile. Très très difficile et en même temps très intéressant. Enfin, c'est la mise en danger était là. Moi, j'aime bien dire que ça s'approche du conte, en fait, ce qu'on fait là. Dans le choix de la pose de voix, dans une volonté justement d'être surtout pas catégorisé dans le rap ou le slam, pas que j'aime pas ça, hein, mais parce que c'était trop marqué, en fait. Donc on a défini ça comme étant de la poésie électro, qui peut être un peu un mot valise, et en même temps la tête que tu as fait, c'est bien.
Voilà,
c'est très bien. Et donc ouais, la pose de voix, moi je la place plus du côté du conte. Effectivement, à la base c'était vraiment de la lecture, parce que c'est quand même de gros morceaux, donc j'avais pas tout par cœur instantanément. Et de fil en aiguille, maintenant je m'appuie plus sur le livre comme un objet de scène que comme une lecture.
C'est-à-dire parce que tout est écrit dedans.
Tout est écrit dedans, mais pour moi ce qui est important, c'est plus de garder un bouquin en disant je ne suis pas le poète. Je viens vous transmettre quelque chose qui m'a été transmis de la part de ce bouquin. Et donc c'est important pour moi de pas tomber dans la posture de voilà, je viens jouer Baudelaire. Non, je ne suis pas Baudelaire. Je viens de donner du Baudelaire. C'est pas la même chose.
Alors on va maintenant tester tes connaissances en français. Enfin, disons, si on peut dire, je ne sais pas si on peut pas dire ça comme ça.
Commander à boire avant.
Alors, mes compères de Francis, ils sont passés avant, donc il n'y a pas de raison que tu n'y passes pas. Ça s'appelle Sorry mon français, et c'est Baptiste qui va te proposer ça.
Un morceau anglo-saxon traduit par un célèbre moteur de recherche en français. Il faut retrouver le titre ou l'artiste. Tu es prêt ?
Allez.
Donc Baptiste, fais la lecture.
Catégorie rock.
Ok.
Chaud ?
Je suis déjà nul si tu me faisais en anglais. Mais allez.
D'accord.
Mais peut-être qu'il y en a qui vont aider.
Non, vas-y, mais tout, les blind tests.
Vous pouvez tous aider.
Alors, mauvais en blind test au monde.
Vous savez qu'il est un peu difficile, juste pour obtenir le long aujourd'hui. Notre sujet est pas cool, mais il feint de toute façon. Il ne peut pas avoir la moindre idée, et il ne peut pas avoir du style. Mais tout ce qu'il manque, eh bien, il fait dans le déni. C'est profond, hein.
C'est fabuleux.
Donc, ne pas débattre un joueur droite.
Quoi ?
Donc, ne pas débattre un joueur droite, c'est pourtant clair.
Oui, c'est vrai, c'était pourtant clair.
Vous savez qu'il n'a pas vraiment... Non, pas, putain. Vous savez qu'il n'a vraiment pas à l'obtenir de toute façon. Il va jouer sur le terrain et le garder réel. Pour vous, aucun moyen. Donc, si vous ne jugez pas, juste surcompenser. Au moins, vous savez que vous pouvez toujours aller sur Ricky Lake. Le monde a besoin, je veux être. Donc, hey, faites cette marque chose de nouveau. Donne-le-moi, bébé. Un.
Oui,
donne-le-moi, bébé. Un. Donne-le-moi, bébé. Un. Et toutes les filles disent que je suis assez mouche pour un gars blanc.
Tellement bien.
Tu l'as ?
Alors, j'ai la chanson.
Oui, vas-y, donne la chanson.
Give it to me.
Non, mais c'est pas Give Me to Me.
Non.
Qu'est-ce
que c'est donc ?
Ah. Attention, on va voir le titre. Dans quelques instants, suspense.
C'était Pretty Fly de Offspring.
Ah, mais alors effectivement. J'ai honte, c'est peut-être le premier album que j'ai acheté avec mon argent de poche.
Ah, il y en a qui l'avaient dans le public. Ah, bah encore les compères de Francis, bravo, ils sont trop forts. Merci en tout cas, Guillaume, c'est d'être venu.
J'aurais dû me faire. Je suis resté sur le Donne-moi bébé, mais. T'as fait le Windows 13 ? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mais c'est pas au début de ce titre, c'est au bout d'un autre, je crois. Mais j'aurais pu faire, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6.
Il y était dans ton fichier.
Oui, mais il me semblait m'être trompé de texte. Bref.
Merci en tout cas, Guillaume, d'être venu nous parler de ce fabuleux projet qui s'appelle Projet 17, justement. Vraiment, je conseille à tout le monde d'aller voir, parce que ça peut paraître un peu curieux au départ de se dire, tiens, mettre des textes de Baudelaire, des poèmes de Baudelaire en musique.
On n'a pas trop parlé du côté électro, mais en fait, c'est aussi...
C'est l'occasion.
C'est l'occasion. C'est surtout le but d'aller dans la modernité. On est plus dans des sonorités électro que dans de la grosse électro bien produite. Il fait effectivement tout en live et il travaille ses sons vraiment plus de manière analogique que numérique. Mais je vous invite en fait à aller sur YouTube.
Finalement, ça reste du coup assez accessible.
C'était
à pas mal de personnes.
C'était le but, c'était justement dans une volonté de transmission, de faire quelque chose qui soit... Ouais, qui puisse être reçu autant par l'amateur de littérature que par celui qui a envie de... Enfin, non, celui qui veut juste du moumou, il ne trouvera pas son compte. Mais quand même, enfin voilà, ça peut, le but, on voulait essayer de toucher le plus de personnes possible sans réfléchir à « on fait ça pour telle personne ». Et puis apparemment, ce qui est chouette, c'est que c'est reçu, en fait, on a
le public
retours,
a été attentif.
On a des
attentif.
Retours très très variés de personnes. Voilà, j'ai un collégien qui est venu vers moi en me disant « je crois que c'est le plus beau concert de ma vie ».
Waouh.
Ouais, c'est assez énorme.
C'est touchant.
Et quelqu'un de 80 balais qui est venu en disant « ça fait plaisir d'entendre du Baudelaire aujourd'hui ». Enfin, voilà.
C'est une vraie réussite. Bravo pour ce travail et cette transmission de cette belle langue qu'est le français. Où est-ce qu'on pourra venir vous applaudir la prochaine fois si on a malheureusement manqué le concert de cet après-midi?
Alors, pour l'instant, c'est un petit peu flou. On a plusieurs choses en cours. Mais ce qui est certain, c'est que le vernissage de l'album, ça sera le 26 mai chez Wood Barbier, à la Jonction. Dès 20h, ce sera un concert gratuit, un concert offert en fait, pour présenter l'album, présenter le spectacle. Wood Barbier, c'est pas hyper grand non plus, donc.
Faut y aller tôt.
Ça vaut le coup d'arriver à 20h, on sera là pour boire l'apéro. Puis,
Très bien, et voilà. Je conseille à tout le monde d'y aller, nous on y sera en tout cas. Merci et puis bonne continuation sur le festival.
Mais merci beaucoup, merci à vous, bonne soirée.
On va continuer avec un morceau de toi en fait, parce que c'est bien.
Très bien.
Chacun sa chimère, donc de Projet 17.
En primeur, hein, puisque.
Voilà.
En primeur. Inédit sur la fabrique.
Inédit sur la fabrique et le reste. C'est parti.
Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemin, sans gazon. Sans un chardon, sans une ortie. Je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère, aussi lourde qu'un sac de farine ou de charbon, ou le fourniment d'un fantassin romain. Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte. Au contraire, elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants. Elle s'agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture. Et sa tête fabuleuse surmontait le front de l'homme, comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l'ennemi. Ces hommes, et je lui demandais où ils allaient ainsi. Il me répondit qu'il n'en savait rien, ni lui, ni les autres, mais qu'évidemment ils allaient quelque part, puisqu'ils étaient poussés par un invincible besoin de marcher. Chose curieuse à noter, aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce suspendue à son cou et collée à son dos. On eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun désespoir. Sous la coupole splinétique du ciel, les pieds plongés dans la poussière d'un sol aussi désolé que ce ciel, ils cheminaient avec la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer. Thank you.
cortège passa à côté de moi et s'enfonça dans l'atmosphère de l'horizon, à l'endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain. Pendant quelques instants, je m'obstinais à vouloir comprendre ce mystère. Mais bientôt, l'irrésistible indifférence s'abattit sur moi. Et j'en fus plus lourdement accablé qu'ils ne l'étaient eux-mêmes par leur écrasante chimère.
C'était Projet 17, chacun sa chimère.